France Inter, franceinter.com.
Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les huiles alimentaires issues des plantes oléagineuses. Comprenez bien ce que je veux dire. Huile de colza, huile de tournesol, de lin, de pépins de raisin, de sésame, de soja, de noix, de noisettes, de cartame, d'argan, de chanvre, de pépins de courge, d'olive ou encore de germes de blé. Ah, et même de coton. La consommation des huiles végétales est passée de 5,2 kg par an et par habitant en 1950 à 9,6 kg par habitant en 2004. Ce sont des chiffres de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. L'huile de tournesol vient en tête avec 40,2% de la consommation directe totale. L'huile d'olive représente 21,9%. Les huiles assemblées, 14,8%. L'huile d'arachide, 3,5%. Ces dernières années, la consommation d'huile végétale est marquée par la part croissante prise par l'huile de colza, 9%, mesdames et messieurs. Et ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture, octobre 2006. Et ce n'est pas anodin si le colza revient en force dans notre alimentation. L'équilibre de cette huile est aujourd'hui reconnu et vanté, car elle contient des oméga 3 et des oméga 6, des acides gras dits essentiels, c'est-à-dire les AGE, indispensables au fonctionnement de notre métabolisme et surtout ne pouvant provenir que de notre alimentation. Au final, le credo des nutritionnistes est aujourd'hui de recommander l'utilisation de telle ou telle huître selon sa teneur en oméga. Et alors là, ne se nomme pas huile vierge ou huile première pression à froid, qui en a envie? Ces huiles-là, qui portent ces deux dénominations, étaient obtenues simplement par pression des graines ou des fruits, sans être chauffées au préalable, filtrées, embouteillées, sans subir de raffinage. On est bien d'accord, ça c'est l'article 3 du décret du 11 mars 1908. On n'a pas fait de progrès depuis, je répète. Les huiles vierges ou les huiles de première pression à froid sont obtenues simplement par pression des graines ou des fruits, sans être chauffées au préalable, filtrées, elles sont embouteillées sans subir de raffinage. Le raffinage, ça consiste en quoi ? À neutraliser le goût, à désodoriser, décolorer. Et les huiles raffinées, donc, sont commercialisées sous l'appellation huile 2. Alors, vous mettez ce que vous voulez, vous avez vu la liste. Donc, depuis 1986, la production d'arachide en France a pratiquement disparu, alors que celle de tournesol a progressé de 75% et celle du colza a triplé. Comment s'organise cette filière? Comment expliquer l'importance prise par le colza et le tournesol? Pourquoi le colza revient-il sur le devant des rayonnages? Quelle différence existe-t-il entre les huiles d'assaisonnement, les huiles de cuisson ou les huiles de friture? Quel mélange d'huile peut-on trouver? Quelle saveur peut-on marier? Doit-on choisir entre diététique et sapidité? Vous avez vu les questions, on a reçu énormément de courriers. Maintenant, je vois que vous avez pris l'habitude, comme on annonce, enfin c'est moi qui y pense, j'annonce les sujets de la semaine suivante. Donc, vous avez le temps de nous poser des questions. On en a beaucoup, nous les avons déjà soumises à nos invités. Et nos invités, qui sont-ils? D'abord, Christophe Laluc, cultivateur et producteur d'huile de colza dans le Loiret, Émile Noël, le fondateur de l'entreprise qui porte son nom, y produit et commercialise des huiles de première pression à froid, mais biologiques, s'il vous plaît. Il est à la retraite, mais il est quand même venu nous parler de sa passion. Philippe Legrand est professeur à l'École nationale supérieure agronomique de Rennes, l'ENSA, directeur de laboratoire de biochimie nutrition humaine, l'ENSA Rinra Rennes. Il est président de groupe de travail de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sur les apports nutritionnels conseillés en lipides pour la population française. Ouf, il arrive à faire tout ça, dit-il. Et Jacques Sirec est président de l'ONIDOL. C'est l'Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux. Il produit du colza et, Dieu merci, il produit du tournesol et du blé, bien sûr, mais aussi du vin dans le Berry. Et c'était vraiment très très bon, ce qu'on a déjà commencé à boire, que vous le sachiez, si jamais ça dérape, vous aurez pourquoi. Et ce sera votre faute, monsieur, vous le savez. Et bien sûr, Perico Legas, un des rédacteurs en chef de Marianne, nous livrera comme... Enfin, pas à l'habitude, puisque maintenant, il y a des fois, vous venez plus, Perico, comment ça se fait? On vous embête? Ah, vous n'avez rien à dire? Et vous êtes sûr que chaque fois que vous venez, c'est parce que vous avez vraiment quelque chose
à dire? Moi, j'ouvre ma gueule que lorsque j'ai quelque chose à dire seulement.
Bon, d'accord. Gare les huiles, alors, m'inquiète. Nathalie Goutal, évidemment, est tombe manette et réalise cette émission. Noémie Lecoq a préparé ce dossier. Elle était assistée par Sophie Ledoré. Alors, monsieur Legrand, je m'adresse à vous tout de suite. Avant toute chose, essayons de spécifier que les huiles végétales sont bien des corps gras. On est d'accord.
Oui.
Fluide à la température de 15 degrés centigrades. Les huiles solides à cette température sont dénommées graisses végétales. On retrouve ces huiles-là dans les biscuits, la margarine, dans le chocolat, puisque maintenant, quand on remplace du beurre de cacao, on le remplace par ce qu'on appelle des huiles végétales. Alors, professeur Legrand, qu'est-ce que c'est qu'une huile sur le plan nutritionnel?
Eh bien, c'est la partie végétale de nos apports lipidiques. Donc, la matière grasse a plusieurs origines, végétale, animale. Il y en a même dans les poissons, comme vous le savez sûrement. Et pour la partie végétale, les huiles constituent la grande majorité des apports. Et donc, on a besoin, pour notre organisme, comme vous l'avez dit, d'un certain nombre d'acides gras qu'on trouve exclusivement chez le végétal. C'est les fameux acides gras essentiels que vous avez présentés tout à l'heure.
Alors, par exemple, l'huile contient combien d'acides gras par rapport au beurre? Parce que finalement, vous savez bien qu'il y a une sorte de combat, on oppose toujours le beurre et l'huile. D'ailleurs, on a en projet de faire une émission sur le beurre qui va arriver dans un mois ou deux, donc... Commencez à poser vos questions. La différence en pourcentage, c'est quoi?
Eh bien, l'huile, c'est ce qu'il y a de plus gras dans la nature. 100%.
Plus que le beurre?
Plus que le beurre. Les beurres sont vers 80 et quelques % de lipides. Donc, il n'y a pas plus lipidique qu'une huile.
D'accord. Et, mais par contre, le pourcentage en lipides, ça doit varier selon les huiles, je présume.
Ah non, non. Elles sont à peu près toutes.
Ah, c'est toutes pareilles. Ah, d'accord.
C'est la composition qui varie, donc.
Et ça contient des antioxydants ou pas du tout?
Ça contient des antioxydants, donc pour quelques pourcents. Oh, après quasiment toutes celles qui servent en tout cas à l'alimentation générale.
Alors, les lipides, ça constitue la matière grasse des êtres vivants et c'est quand même parfois vu d'un mauvais œil. Hein, quand,
oui.
Quand vous lisez par exemple maintenant sur les étiquettes de tous les produits alimentaires, il y a les protéines, les lipides. Et là, quelquefois, on a des pourcentages qui sont inquiétants. Donc, les lipides contenus dans l'huile, ça apporte, vous venez de le dire, des acides gras essentiels qui sont, eux, des aliments, des nutriments.
Oui.
Ben, des aliments, des nutriments, hein, je dis bien,
oui,
vous
tout
reprenez,
à fait.
Hein,
oui, oui.
Je ne suis pas spécialiste. Des nutriments indispensables pour l'homme, c'est-à-dire on ne peut pas se passer d'acides gras essentiels, au même titre qu'on ne peut pas se passer de vitamines.
Voilà, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de décennies, les acides gras essentiels se sont appelés vitamine F, et donc c'est au même titre que les vitamines ou que certains acides aminés que les acides gras essentiels doivent être apportés par l'alimentation.
Donc ça, on a changé parce que c'était pour emmerder les consommateurs pour que finalement, ils ne s'y retrouvent pas du tout.
Non, c'est parce qu'ils avaient aussi d'autres fonctions que d'être seulement nécessaires à la vie cellulaire. On en fait aussi de l'énergie et c'est bien là qu'est le problème puisque les lipides, quand vous dites ça peut être perçu comme mauvais, on ne connaît pas de mauvais acides gras, on ne connaît que de sotte consommation et évidemment, c'est l'excès qui pose problème. Mais il faut quand même évoluer et bien comprendre que c'est l'excès qui pose problème et non pas tel ou tel acide gras, fût-ce même les saturés qui n'ont qualitativement pas de défaut majeur. Par contre, leur excès pose problème et ça tout le monde le sait, et les médecins en particulier.
Le sandwich, c'est la mayonnaise qui fait le le drame du sandwich, c'est pas le jambon ni le pain, on est d'accord.
On est d'accord. Hein,
bon. Alors, mais là, vous avez parlé des acides gras essentiels. On est obligé de les apporter dans l'organisme parce qu'on n'en fabrique pas, si
oui,
je comprends
tout
bien.
Tout à fait, oui.
Et, du tout.
Du tout. Alors, pour être plus précis, les acides gras essentiels, il y a deux familles, les oméga 6 et les oméga 3, qui, comme je viens de l'indiquer, c'est bien des familles dont il s'agit. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y en a un petit paquet. Et le précurseur, le grand-père, si vous voulez, est exclusivement d'origine végétale. C'est pourquoi les huiles doivent être présentes dans l'alimentation. Donc, il y a un précurseur oméga 6, un précurseur oméga 3, et ceux-là, on ne les trouve que dans les végétaux. Puis après, leurs petits-enfants, leurs dérivés, peuvent provenir de l'alimentation générale, puisque les animaux et même l'homme, on sait à partir des deux précurseurs faire tout le reste de la famille oméga 6 et de la famille oméga 3. C'est pourquoi quand on parle d'oméga 3, les vendeurs de poissons disent c'est nous, les vendeurs d'huile de colza disent c'est nous. Et en fait, les oméga 3, c'est à la fois le précurseur de l'huile de colza, par exemple, mais aussi les huiles de poisson qui font donc partie du tissu adipeux du poisson. Donc les oméga 3 n'ont pas d'attache exclusivement végétale ni d'attache exclusivement animale. Ils font partie de l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Oui, quand on dit il y en a dans le poisson, ça ne change rien.
Mais ce n'est pas les mêmes.
C'est les mêmes.
Dérivé de celui qu'on trouve dans le colza.
Et alors, les acides gras essentiels, qu'est-ce qui joue comme rôle dans notre métabolisme? Parce que c'est bien gentil de dire il en faut, mais ça sert à quoi ça nous? Qu'est-ce que ça fait?
Alors, c'est très proche du rôle de vitamine, c'est-à-dire pour la famille oméga 6, l'acide linoléique assure la croissance des tissus, c'est-à-dire chez l'animal où ça a été particulièrement bien démontré, il y a un certain nombre de décennies maintenant, il n'y a pas de croissance normale, comme une carence vitaminique, c'est-à-dire l'animal fait la moitié de sa taille, il perd ses poils, et donc les signes de carence très proche de ceux des vitamines. Pour les oméga-3, découverte plus récente, seulement une vingtaine d'années, un petit peu plus. Et là, c'est les structures cérébrales qui sont à l'origine de leur caractère indispensable, même si l'aspect cardiovasculaire est venu se greffer après. Mais donc, les oméga-3 peuplent en quantité très importante les neurones et en gros les cellules de notre cerveau, y compris la rétine. Donc, c'est en termes de structure qu'ils sont indispensables dans certains tissus pour un fonctionnement cellulaire normal.
Alors moi, je ne dois pas en prendre assez, sûrement, ça doit être ça, à mon avis.
Ou trop.
Ou peut-être trop, oui. C'est l'un ou l'autre. Parce que quand on en prend trop, évidemment, c'est désastreux, non?
Et c'est pas évident à prouver. Disons, pour simplifier, qu'il vaut mieux avoir un équilibre entre les deux familles. On a plus d'ennuis à avoir un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 que de réels ennuis à avoir trop d'oméga 6 ou trop d'oméga 3, où là, on n'a pas le recul ni les études nécessaires pour l'affirmer.
C'est une émission, il va falloir faire très attention parce que tous ces producteurs d'huile, évidemment, doivent en prendre une cuillère ou deux par jour. Donc, on a des cerveaux exceptionnels. Essayons de ne pas dire de conneries. Donc, combien de cuillères d'huile peut-on utiliser chaque jour, professeur Legrand?
Ah ben, là, d'abord, moi, je suis biochimiste, donc il faudrait demander à une diététicienne. Mais en gros, ce que je peux vous dire...
Qu'elle sert à...
Ben, c'est la connaissance.
C'est notre problème, c'est là, est-ce qu'elles savent?
Bien sûr, les diététiciennes, c'est parmi les meilleurs agents d'interface entre la connaissance et la population. Moi, je ne sais pas combien pèse.
Diététicienne ou nutritionniste, c'est là la question.
Oh, peu importe. Les gens qui ont des connaissances.
Il y en a une qui a un diplôme médical et l'autre pas, quand même. Ah ben oui, mais c'est pareil important quand même.
Disons que l'apport lipidique journalier, c'est 33% de l'apport calorique total. J'essaye de faire simple, 2200 chez l'homme, par exemple. Mmh. Bon, de taille moyenne, hein, peut-être un peu plus pour vous, mais bon. On divise par 3,
merci.
Ça fait 33%, ça fait 80 grammes de lipides. Mais au-delà, je ne peux pas vous dire, et je pense, à part les gens qui sont donc spécialistes de la diététique, peut-être un tiers d'huile, ça vous fait 3 cuillerées, 30 grammes. Un tiers de lipides qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ceux qu'il y a dans les aliments, on les compte hein, dans les 80 grammes, et puis encore une ou deux petites proportions pour le beurre qui n'est évidemment pas du tout à bannir, et avec tout ça, vous arrivez à peu près à vos 80 grammes. Donc la moitié ou le tiers d'huile à peu près.
Alors, vous connaissez évidemment l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Ils ont classifié les huiles, vous le savez. D'un côté, il y a celle bien équilibrée, conseillée pour l'assaisonnement. L'autre, pauvre en oméga 3, enfin, comprenez, mal équilibrée. Non. Et une huile bien équilibrée, c'est une huile qui contient une certaine proportion d'oméga 3 et 6. On est d'accord?
Oui. Hein,
et quelles huiles vous recommandez, vous?
Alors, les apports nutritionnels conseillés en lipides que je préside, ça correspond à donner des conseils sur un menu, c'est-à-dire ce n'est pas un produit. Quand un industriel dit à moi tout seul, je fais les ANC pour apports nutritionnels conseillés, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il n'y a pas spontanément de produits idéaux qui apportent juste la bonne composition. Donc, si vous voulez, ce qui compte, c'est que l'équilibre sur la personne provienne d'une somme et d'une variété de produits qui seront, eux, plus ou moins déséquilibrés. Oui, cela dit, il y a des caricatures, vous avez raison, et cela dit, il y a des huiles qui ne sont pas très loin de l'équilibre qu'on souhaite, donc autant partir de celle-là.
Alors, celle-là, c'est... Alors, quelles sont-elles ? Colza, par exemple ?
Avant de dire quelle huile, il faut dire la population française est excédentaire un peu en lipides totaux. Bon, ça, c'est à chacun de se gendarmer. Mais en termes de composition, il y a un déficit, pas d'une carence, mais un déficit en oméga-3. Donc, en tant que scientifique responsable de ces conseils-là, il faut que l'apport lipidique compense ce déficit. De ce fait, on est amené à conseiller des huiles qui contiennent des oméga-3. Et s'agissant d'huile, c'est forcément que le précurseur et pas les dérivés. Donc, évidemment, donc pour répondre à votre question, les huiles contenant de l'acide alpha-linolénique, le précurseur oméga-3, auront ma faveur.
Et c'est
le colza pour ce qui concerne l'équilibre le plus abouti. Et puis, je tiens compte aussi de son caractère omniprésent, c'est-à-dire il s'agit de nourrir la population française et pas seulement des huiles de derrière les fagots qui seront à 30 euros le kilo, par exemple. Donc, en termes de grande consommation, c'est le colza qui arrive en tête.
Plus que le tournesol. Hein.
Le tournesol est une caricature en termes de composition puisqu'il est quasiment exclusivement oméga-6 et un petit peu d'oléique.
Et alors, l'huile d'olive ?
L'huile d'olive est réputée excellente. Elle n'est pas mauvaise, bien entendu, mais n'a pas le top de la composition puisqu'il n'y a pas d'oméga-3 ou pratiquement pas d'oméga-3 dedans.
Et l'huile de lin, alors ?
Alors, l'huile de lin, je dirais, c'est un peu la caricature. Quand je dis caricature, c'est nutritionnel, hein, c'est pas une critique de vos différentes branches. L'huile de lin est le versant opposé du tournesol, c'est-à-dire oméga-3 presque en excès. Là.
Alors, donc, si j'ai bien compris, je prends avant toute chose de l'huile de colza. Oui. Après, je prends de l'huile d'olive
pour le goût et le... Oui.
Et puis quand je veux... Alors ça, c'est pour ma salade,
oui.
Ça.
Un peu de noix, si vous voulez, parce que l'huile de noix se rapproche du colza du point de vue richesse en oméga-3.
Oui, sauf que l'huile de noix, ça rancit assez vite quand même.
Si vous voulez.
Je m'adresse au spécialiste,
oui,
monsieur Noël.
Oui.
Ça serait mieux de vendre des petites bouteilles plutôt que des grandes, parce que un litre d'huile de noix dans un rayonnage, non. Quand ça traîne un an, en général, vous ramenez, vous ne savez plus ce que vous avez, sinon c'est rente. Il y a de la rancitude.
Oui. Hein. Petit conditionnement.
L'huile de noix provoque une rancitude de l'huile. On peut dire ça, peut-être.
Absolument.
Alors, ça, c'est pour la salade. Et si je veux faire cuire, je prends quoi, monsieur Legrand ?
Alors, là, il y a aussi...
Qu'est-ce qu'on apprend ? C'est bien.
Il y a aussi des idées reçues. Finalement, il y a eu historiquement peut-être un peu trop de prudence par rapport à la cuisson des huiles. Les études récentes montrent que même le colza tient très bien à la cuisson. Oui. C'est-à-dire, en termes d'acides gras, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire les acides gras oméga-3 de l'huile de colza tiennent très bien. En revanche, c'est une crucifère, il y a des odeurs de chou, et visiblement,
oui, ça,
c'est ça qui va pas.
Oui, oui.
Et je crois que... Mais là, c'est pas l'argument du nutritionniste, c'est l'argument de l'usager. Effectivement, il vaut mieux éviter le colza à chaud. Alors, l'olive, bien entendu.
Attendons, attention. C'est que quand je dis cuisson, j'ai pas dit friture. Hein, parce que friture, c'est encore une huile à part, c'est une résistance à la chaleur, je présume. Cuire, c'est juste... Enfin, si vous faites une fricassée de légumes, par exemple, et que vous vous mettez de l'huile dans le fond, vous n'amenez jamais le colza jusqu'à une température telle qu'elle dégage une odeur de chou. Je trouve pas, en tout cas, pour moi.
Eh bien, alors, vous pouvez l'utiliser, donc à chaud.
Okay. Et alors,
l'olive reste quand même pour ceux qui l'aiment, évidemment.
Bien sûr.
Même pour frire ? Pour la friture ?
Ah oui, en théorie, oui. Ah oui, oui. Olive, arachide.
Olive,
être...
oui.
Oui, oui, tout à fait.
Arachide pour la friture.
Oui. Ça existe, oui.
Elles sont...
Ou tournesol oléique aussi, vous pouvez mettre en friture.
Ah oui, bien sûr.
Tournesol oléique.
Bien sûr, tournesol oléique.
Et alors là, maintenant, on nous a beaucoup vanté et on dit que ce sont des âneries, c'est des huiles de palme, de palmiste et de copra.
Alors, palme, palmiste et copra, c'est parmi les végétaux les huiles qui apportent le plus d'acides gras saturés. Donc, ces huiles-là n'ont pas nos faveurs spontanées, puisque... pour revenir toujours à des préoccupations de santé publique, comme il y a un excès de consommation d'acides gras saturés, c'est pas la peine de retrouver dans le végétal ce que certains fuient par ailleurs dans l'animal. Donc c'est pas les saturés qui sont mauvais. On se bat quelquefois pour dire que ceux des produits animaux, des graisses animales, c'est pas qu'ils soient mauvais, c'est leur surconsommation qui pose problème. Ben, en végétal, c'est pareil. Les huiles saturées, c'est palme, palmiste, copra. Il n'y a pas de polyinsaturés et il n'y a pas d'oméga 3. Donc elles ne sont pas très intéressantes. Mais je n'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises.
Ok. Alors je me tourne vers vous, Christophe Laluc. Vous avez entendu le professeur nous parler de pallier le goût à ses notes de... On pouvait faire des mélanges, donc pallier le goût neutre de l'huile de colza avec de la noix ou de l'huile d'olive, faire des mélanges. L'huile de colza que vous produisez est pressée à froid. Bon, le goût est donc moins neutre qu'une huile raffinée.
Voilà, je crois que l'huile de colza, c'est une huile également à goût, j'ai envie de vous dire, tout comme l'huile d'olive. Celle que l'on produit, nous, sur la ferme, c'est du colza que je produis, moi, sur mon exploitation agricole. Je suis agriculteur à côté de Pithiviers, dans le Loiret. Donc, je produis maintenant, depuis plusieurs années, du colza. Et depuis 2 ans, je me suis mis à le transformer en pressant la graine à froid, c'est-à-dire sans la faire chauffer, afin de conserver toutes ses valeurs nutritives, mais également son goût. Aucun rajout de solvant ou d'acide n'a été opéré, aucun conservateur non plus, ce qui a permis bien évidemment de conserver toutes ses vertus santé, également tout son goût. On peut dire que l'huile de colza, telle que je vous en ai amené ici à goûter, c'est une huile pur jus qui est très goûteuse également.
Comment est-ce qu'un paysan qui jusqu'à présent allait porter son colza, son blé ou son maïs à la coopérative, comment est-ce que l'idée vous est venue tout à coup de devenir producteur d'huile? Parce que vous en aviez assez d'enrichir les coopératives à votre détriment?
Non, je ne vais pas dire ça comme ça.
Donc, non, mais vous pouvez le dire autrement, si c'est ça que vous voulez dire.
Tout d'abord, on est deux sur ce projet. Il y a moi et mon épouse, bien évidemment. On est à deux à mener à bien ce projet. La volonté, c'est très simple. Ça a été de pouvoir arriver, avant d'arriver au terme de ma carrière, j'ai envie de dire, d'agriculteur, d'arriver à transformer et à commercialiser un produit que l'on produisait sur l'exploitation agricole.
Vous auriez pu faire du pain.
On aurait pu faire du pain, et pour rien vous cacher, ça nous a traversé l'esprit. On est parti sur le colza après pas mal de rencontres au niveau de salons gastronomiques, d'épiceries fines, etc., au cours de l'année 2004. Et on s'est très très vite aperçu que sur le créneau du colza, il y avait quelque chose à faire. À partir du moment où on faisait un produit de qualité, goûteux, bon, pressé à froid, etc., et on est très vite pris ce créneau-là et on nous retrouve donc régulièrement sur des marchés, sur Paris, etc.
Vous la vendez directement, quelle est votre commercialisation?
La commercialisation donc est de deux niveaux. On a aujourd'hui environ 60-70 magasins qui nous la commercialisent.
Dans votre région, hein, vous êtes dans
le Loiret. Entre Blois et Paris. Oui. Il y en a à peu près 60-70 magasins entre Blois et Paris qui nous la commercialisent. Et j'ai presque envie de dire, la majeure partie de nos ventes s'effectue actuellement sur des salons gastronomiques. Également donc dans ma région, le Loiret, mais surtout sur Paris, en région parisienne, les salons Paris Fermier, etc., où nous sommes présents et nous commercialisons une grosse partie de notre production comme ceci.
Et alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, parce que vous proposez de l'huile de colza à l'ail, à l'échalote, une autre qui est noîtée. Ça, c'est du marketing à l'état pur, parce que mettre de l'ail dans de l'huile, n'importe quel consommateur un peu avisé, faut le faire, c'est pas compliqué du tout, et ça coûte juste le quart du prix de ce que vous vendez, en gros, ou la moitié.
Je ne vais pas trop vous contredire sur ce point-là. Sachez malgré tout que les commerces, lorsqu'on en veut, les intéresser à la prise de notre produit, il nous faut avoir une gamme de produits. Donc si je ne viens qu'avec ma seule huile de colza, je n'intéresse personne. Donc il a fallu également donc décliner un petit peu notre produit, ce qui nous a amené à faire l'ail et échalote, qui est notre produit phare sur les salons. À partir du moment où les gens ont goûté, systématiquement nous prennent notre huile et échalote, je peux vous l'assurer.
Non, mais moi, je n'ai rien contre.
Bien sûr,
je veux dire,
moi,
j'aime mieux mettre mon ail de mon jardin dedans. Ben, c'est quand même pas compliqué. Vous achetez 3 gousses d'ail de Lautrec, vous le mettez dedans, c'est fini. En plus de ça, il faut quand même bien savoir que cette idée marketing, pardon de dire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs que ça peut intriguer. Et monsieur Noël pourra intervenir là-dessus. Et vous aussi, d'ailleurs, président, monsieur Siré. À savoir que... dès l'instant où vous vendez dans le même contenant une huile neutre, c'est-à-dire qui n'est pas parfumée, et que vous allez vendre le même contenant avec de l'huile échalotée ou aillée, je veux dire, ce contenant-là, vous n'allez pas vous en servir aussi fréquemment que vous allez vous servir de l'huile entière. Donc, très souvent, moi je serais d'accord pour qu'on prépare des huiles parfumées, mais qu'on le fasse dans des petits contenants, parce que sinon on est encombré par un maximum de bouteilles et qu'on le veuille ou non, à un moment donné ou à un autre, je parle sous votre contrôle, professeur Legrand, mais ça se détériore le goût des huiles au bout d'un moment, parce qu'il faut que ça soit conservé à l'abri de la lumière, de l'humidité. Il y a des précautions à prendre. C'est pas un truc qu'on laisse sur le coin d'une cuisinière et qu'on verse comme ça. Alors quand on a affaire, je le dis d'autant plus sincèrement, depuis que j'ai découvert votre huile il y a 2 mois,
merci.
Je m'en sers. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire venir, parce que je sais ce que c'est et que j'ai essayé vos huiles. Et je me dis, mais je m'en sers pour quoi faire de l'huile échalotée? Bon, oui, si je vais faire des pissenlits, je vais mettre ça là-dedans. Mais dans une huile, dans une salade de tomates, ça ne sert à rien. Je peux mettre ça peut-être sur une salade de tomates à la belle saison. Et vous voyez, il n'y a pas un usage. C'est comme les vinaigres de framboise, toutes ces aromatisations comme ça de produits. Je flaire le marketing. Et je préférerais que vous ayez dans votre jardin 200 mètres d'ail ou 200 mètres de belles échalotes grises, et que quand vous alliez faire les marchés, vous vendiez ça et que vous disiez bah, partagez la bouteille en deux ou en trois et puis mettez-moi une gousse d'ail dedans. Ça me paraîtrait ramener le consommateur à la fois un peu de pédagogie et en même temps lui apprendre comment ça fonctionne. Enfin, bon, pardon de la... Et alors, comment ça fonctionne la fabrication à côté de ça, l'huile de colza? Vous le ramassez, donc c'est fauché.
Voilà, hein, tout est fait sur la ferme, hein, donc agriculteur là-bas. Donc je suis le producteur du colza, le colza que je récolte avec ma moissonneuse-batteuse, que je stocke dans des cellules pour pouvoir la conserver, que je ventile pour que la graine ne s'échauffe pas. Cette graine, je la mets ensuite directement dans ma presse sans la faire chauffer. C'est là toute la notion pressage à froid donc, intervient. Il sort de l'huile donc, sous ma presse, que je laisse décanter moi, pendant 3 mois dans des fûts à l'abri de l'air et de la lumière pour qu'elle se filtre naturellement. Au bout de 3 mois, je la reprendrai. Je la passerai simplement dans un filtre en papier comme un filtre à café et je l'embouteille. L'embouteillage, c'est actuellement en cours pour moi, manuel, c'est-à-dire au robinet, bouteille par bouteille, etc. Et la commercialisation...
Combien par an?
Entre 5 et 7 000 litres par an.
Bah alors, dès que vous atteignez 10 000, 12 000 litres, vous allez mécaniser la mise en bouteille. Donc,
voilà,
pas de panique.
Pourquoi pas? Pour le moment, l'entreprise, entre guillemets, parce que l'entreprise, c'est moi et mon épouse, étant encore relativement modeste au niveau des quantités produites, l'aspect mécanisation, certes, on l'a dans la tête. Ceci dit, dans les fêtes, ce n'est encore pas le cas aujourd'hui.
Alors, merci. On va écouter Perico. Mais avant, je voudrais juste vous poser une question, monsieur Legrand, parce qu'il nous arrive un courriel à l'instant. Vous venez de dire dans l'émission que l'huile de palme n'a aucun intérêt nutritionnel. Alors, pourquoi y en a-t-il dans les laits infantiles, l'huile de palme, de coco, etc. Merci pour votre réponse. Demandez au professeur Legrand. Vous êtes servi.
Aucun intérêt nutritionnel, c'est une phrase relative, c'est-à-dire que si on parle de l'intérêt des huiles par rapport à la situation nutritionnelle des Français, c'est vrai que ce n'est pas vers l'huile de palme qu'il faut se tourner. Maintenant, ce qui est certain, c'est comme pour les produits de monsieur, là, il y a un certain nombre de produits alimentaires qui font des mélanges de produits d'origine. Toutes les margarines ont de l'huile de palme, par exemple.
Oui, mais par exemple, non, mais là, on est dans un lait infantile. La margarine, tout le monde est libre d'en prendre ou de ne pas en prendre. Et de savoir ce qu'il y a dedans ou pas. C'est des adultes, vous ne tartinez pas de la margarine pour des enfants. Mais là, est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'AFSA ou de l'INRA, peut-être, je ne sais pas, de dire à tous ces industriels, je m'adresse à vous aussi, monsieur Sirem, est-ce que à un moment donné, on ne pourrait pas dire aux industriels, mais ce n'est pas la peine de mettre ces trucs-là, puisque ce n'est pas utile et ce n'est pas bon. Alors, c'est évidemment, ça a un caractère économique.
Oui, mais pour ça, il faut défendre à la fois le lait et il faut défendre l'huile, ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire, le mieux, c'est de ne pas se servir de tous ces mélanges. Mais s'il y en a qui en font, c'est qu'ils y trouvent sans doute un intérêt, qui n'est d'ailleurs pas contraire probablement à la santé. S'agissant de lait infantile, tout cela est quand même très bien contrôlé. Mais si vous voulez faire des mélanges pour avoir un produit qui soit sans doute, j'en sais rien, moi je ne suis pas l'économiste du groupe, là, moins cher. Il y a quand même évidemment sur le marché les produits d'origine, le lait, les huiles, où on peut trouver absolument son équilibre nutritionnel sans jamais acheter ni de margarine ni de composé de mélange. Maintenant, tout le monde n'a pas ni les informations ni forcément l'habitude de faire ça, donc il y a aussi des mix.
C'est dommage, non? Hein, monsieur Siret?
Moi déjà, en tant que représentant de l'interprofession et avant tout producteur français, ma préférence va immédiatement vers ce que nous pouvons produire en France. Et vous en êtes rendu compte, vous l'avez cité, on arrive à produire en France du colza et du tournesol en quantité capable de fournir la population française. Alors essayons de privilégier nos produits qui ont au moins le mérite d'exister. Et peut-être que le fait de produire localement raccourcisse aussi un certain nombre de circuits qui peuvent éviter aussi un certain nombre de problèmes.
Oui, donc ce qu'on peut dire aux industriels, les gros groupes qui font des produits pour les enfants en Suisse ou dont le siège est en Suisse ou ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, pensez aux mômes, quoi, et essayez de consommer français.
Mais tout à l'heure, on citait les lins infantiles. Permettez-moi de paraphraser par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à l'huile de colza qui joue sur le développement des cellules cérébrales. Mettons un peu d'huile de colza dans le biberon des enfants et peut-être que la nation va gagner un peu en pouvoir cérébral.
Ah, le professeur Legrand dit non.
Mais non, si vous ne voulez pas d'huile de palme dans les laits infantiles, ce qui est tout à fait compréhensible, ce n'est pas la peine non plus de commencer à mélanger le lait et le colza. Donc dans le lait, il y a des acides gras oméga-3. Non,
vous voyez mais bien, si c'est le lait maternel... Mais les présidents de LDC de vendre son huile, et vous restez... Voilà. Alors...
Tout le monde est contre les mélanges, sauf chaque
vous
branche...
Vous voulez pas... Qui... Alors, Péricot, l'huile...
Eh bien... En vous entendant disserter sur ce besoin pressant de presser les grosses villes, nous sentons quelque peu les effets de la campagne électorale. Ceci dit, on n'est pas très loin du problème, car les nuances, les subtilités qui distinguent les différentes huiles ne sont pas loin de symboliser les différences entre tel et tel programme politique. Y a-t-il des huiles social-démocrates, des huiles conservatrices, des huiles libérales ? À vous entendre, on pourrait le croire. Mais l'essentiel est quand même que l'huile ait du goût, de la personnalité, voire une âme, c'est-à-dire qu'elle soit artisanale et naturelle, bien entendu. L'huile de graine, malgré ses formidables propriétés, ne pourra jamais donner plus de plaisir que ce qu'elle a. L'huile du fruit, elle, offre un panel aromatique beaucoup plus marqué. Mais l'important, je le dis, c'est que l'huile nous redonne envie de retrouver ou de trouver le chemin de la cuisine. Pour la cuisson, la friture ou l'assaisonnement, selon, c'est cette diversité de saveurs et de parfums qui est un atout formidable avec lequel le cuisinier ou la cuisinière peuvent jouer. Puisque l'on peut se faire du bien en consommant de l'huile, autant en profiter en redonnant le goût du goût à ceux qui l'ont perdu. Messieurs, vous avez une mission formidable. Toutefois, petit coup de cœur, derrière l'huile d'olive, il y a le message de la civilisation. Voici un fruit qui porte en lui toutes les valeurs de l'humanisme hellénique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les Grecs firent de l'olive la 6e lettre de leur alphabet. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta. Zeta, ça veut dire olive en grec, zetim en hébreu, zetoun en arabe, aceituna en espagnol. Il y a même, alors latin c'est drôle, quand on dit huile d'olive, ça veut dire olive d'olive, puisque olio, huile, c'est le bol d'olive. L'olivier, c'est bien donc l'arbre de vie dont la branche est symbole de paix. Il a bercé les religions du livre et fédère dans un formidable patrimoine culturel les cuisines de la Méditerranée. On imagine mal le trésor philosophique que contient une goutte d'huile d'olive. Le colza et le tournesol aussi sont des porteurs de symboles et traditions. Mais j'avoue qu'il m'ennuie un petit peu, Jean-Pierre. Et malgré tout, j'ai écouté celle de M. Laluc, c'est un véritable bonheur. Alors, puisque l'assemblage de ces différentes huiles nous fait du bien, eh bien, mélangeons-nous. Profitons-en pour les réunir, les honorer et les mettre en valeur dans nos assiettes, sur nos tables. Voici le bon gras qui rassemble les hommes. N'hésitons pas à faire couler un peu de sacré dans la salade. Et puis, pour une fois que le professeur Legrand nous explique que pour une fois, l'on périt par défaut bien plus que par essai, alors on va pas s'en priver.
Merci. Merci Péricot. C'est toujours ça se vous passe, ça se mange. Vous êtes sur France Inter. Nous traitons des huiles. Et nous sommes en compagnie de Christophe Laluc, qui est cultivateur et producteur de colza, d'huile de colza dans le Loiret. Émile Noël, qui est le fondateur de l'entreprise Noël, qui produit et commercialise des huiles de première pression à froid, biologiques, bien sûr. Vous êtes à la retraite, mais vous ne pouvez pas vous empêcher que de venir défendre avec passion ce qui a motivé toute votre existence. Philippe Legrand, qui est professeur, alors je vous ai dit, vous avez vu, il est partout, quoi, il est professeur. De tout. Il est surtout il est président d'un groupe de travail de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sur les apports nutritionnels. Conseiller en lipides pour la population française, et Jacques Siret, qui est le président de l'ONIDOL. Et l'ONIDOL, on va vous donner la parole tout de suite, président. l'Organisation nationale interprofessionnelle des graines et des fruits oléagineux. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais demander à Monsieur Noël, vous avez été, vous, il faut quand même le dire, même si vous êtes à la retraite, un des pionniers de l'huile biologique en France. Vous avez démarré votre entreprise tout de suite après la guerre avec votre femme, votre magnifique femme qui est à nos côtés. Le gel des oliviers en 56, terrible, vous a poussé à diversifier votre production. Donc maintenant, il n'y a plus que de l'huile. Il n'y a pas seulement l'huile d'olive, il y en a des tas d'autres. Et vous avez surtout, vous vous êtes spécialisé dans la trituration des graines. Alors expliquez-moi un petit peu votre parcours. Là, et pourquoi vous en êtes arrivé à avoir autant de gammes que ce que vous avez, enfin, une gamme aussi large que celle que vous avez.
Mais c'est une... Il faudrait
que vous approchiez un peu du micro, Monsieur Noël.
On est des pionniers.
C'est formidable d'avoir un Père Noël là, vivant à côté de soi. Et il n'a pas de barbe, mais il a des cheveux tout blancs.
En janvier surtout.
C'est bien.
Oui, nous sommes des pionniers de la fabrication d'huile. Mon papa, depuis 1920, faisait que de l'huile d'olive. Dans toute la région, Ardèche, partout, il n'y avait que des producteurs d'huile d'olive. Et notre chance, c'est que ces paysans avaient, à l'époque de la guerre, c'était tout de suite après la guerre, avaient leur jardin, leurs cochons, leurs volailles, leur huile. Tout le monde avait des oliviers, on faisait beaucoup d'huile d'olive. Et au gel de 56, on s'est retrouvé à la rue. Donc, il a fallu adapter ce vieux moulin à fabriquer de l'huile de tournesol. Et ce qui nous a aidé, c'est que les paysans, ça a été fabuleux pour nous, faisaient toujours de l'huile de tournesol, mais ils en fabriquaient... Ils en produisaient beaucoup plus que leurs besoins. C'est-à-dire que je prenais les graines à la récolte et je leur payais le solde en fin d'année, ce qui me permettait toute l'année de travailler sans argent.
Mais vous faisiez de la trésorerie.
Ça a été fabuleux pour nous. Et dès qu'on a eu un petit peu plus d'argent, nous avons acheté à la ferraille des presses titanes, qui étaient à la casse. Avec mes études d'ingénieur, j'ai pu, avec mon tour, le tour de papa, j'ai pu réadapter ces presses à la fabrication exceptionnelle des huiles de première pression à froid. Et on a été rigoureux, toujours très rigoureux sur la qualité, ce qui nous a mené à faire des produits biologiques.
Et pourquoi vous faites bio ? Vous faites bio depuis 56 ou vous faites bio
non,
récemment ?
72.
En 72, vous avez commencé à faire du bio ?
Oui, parce qu'alors, on a été secondé, on était dans une région où il y avait les hippies.
Vous êtes où ?
Pont-Saint-Esprit, dans le Gard.
Oui.
Et on était dans une région où les hippies étaient là, nous ont aidés, voulaient des produits naturels, parlons pas bio. Et ils nous prenaient beaucoup d'huile et ça nous a développé. Et alors, à ce moment-là, nous avons eu l'idée de faire avec mon épouse les salons. On allait dans toute la France, on allait à Paris, on allait à Colmar, on faisait toute la France.
Oui, ce que fait M. Laluc, finalement.
Oui.
Et alors, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à importer du cartam d'Australie, c'est ça que...
Mais parce qu'alors, nous sommes très rigoureux sur les origines de nos produits. Par exemple, aujourd'hui, nous faisons de l'huile de tournesol de Provence. Nous connaissons tous les producteurs. On fait de l'huile de sésame où j'ai créé une entreprise au Burkina Faso. C'est de l'huile de sésame équitable. Et alors, les gens voulaient du cartam, les gens voulaient... Alors, j'ai créé avec des Australiens, on est allé avec ma femme plusieurs fois, en Australie, voir les producteurs, parce que je tiens à avoir une rigueur incroyable.
Vous avez une traçabilité sur tous les produits ?
Tous les produits. Avec, je dis, ingénieur qualité, un laboratoire exceptionnel, même les grosses huileries n'ont pas notre laboratoire. Tout est analysé, tout est contrôlé, et on paye après et on vend. Mais on a été très rigoureux.
Mais vous avez été un des premiers, vous, à mélanger les huiles, à faire des mélanges.
Oh là, j'ai mélangé mon huile il y a 30 ans, qu'on appelle équiluile, parce que je travaillais à l'époque pour...
des magasins diététiques.
La Vie Claire. Et alors, je leur travaillais à façon, ils me donnaient les graines, et je faisais l'huile. Et un jour, ils sont venus chercher de l'huile de tournesol, non, de l'huile de sésame et du pépin de courge. Quand ils sont venus chercher, il y a une cuve qui était vide et l'autre était pleine. Alors, c'était juste au début où on commençait à vendre notre huile. On a eu de gros problèmes. J'ai ajouté dedans. Il a fallu les payer. Ça a été un drame pour nous. Oui, ça a été un drame. Et on commençait à mettre de l'huile en bouteille. Et pour baisser les prix, j'ai mis du tournesol. 50% de tournesol. Et alors, ça a été une réussite. 6 mois après, il a fallu refabriquer cette huile. Et alors après, on s'est développé, je vois, huile oméga, huile... nous avons toute une gamme d'huile, olive, colza, nous avons toute une gamme d'huile que nous voulons adapter à la demande.
C'est un intérêt nutritionnel, professeur Legrand, les mélanges d'huile ?
Oui.
Ou un intérêt gustatif ?
Non.
En toute logique, ça dépend ce que vous mélangez, mais sésame, cartame, tournesol, c'est l'excès d'oméga 6 et le déficit quasi
mais ça
absolu
dépend des quantités qu'on met
en
dedans.
Oméga 3. Donc je ne dis pas que les produits ne sont pas bons, ce n'est pas ça, mais vis-à-vis de l'équilibre du régime, ce n'est pas ce qui est souhaitable.
Ça dépend des quantités, les dosages qu'on met. On met pas.
Oui, mais
je vois par exemple.
Sésame, cartame, tournesol, vous n'avez pas d'oméga 3. Donc, quelle que soit la façon dont vous mélangez ces trois-là, ça ne fait toujours pas.
On met de la noix et on met du chanvre.
D'accord.
Ah oui, vous en rajoutez encore.
On met du colza 50%, de colza.
Oui.
Du sésame 25%, de l'olive 15%. Quand je regarde les autres, nous avons 5 huiles. Nous avons 5 huiles dans oméga 3, oméga 6, oméga 9.
On a c'est quoi cet oméga 9 ? C'est un nouveau truc, ça ?
Non. Dans les acides gras polyinsaturés, les deux grandes familles que vous avez citées tout à l'heure, oméga 6 et oméga 3, sont essentielles. Donc on a beaucoup parlé d'elles. Et puis il y a d'autres familles d'acides gras monoinsaturés, c'est l'acide oléique, c'est-à-dire en gros l'huile d'olive.
Ouais.
Et c'est un oméga 9, c'est-à-dire sa nomenclature correspond à ça. Comme ce n'est pas essentiel, on n'en
parle pas. Péricot ?
Oui, je voulais faire une petite insiste pour poser une question au professeur Legrand. Est-ce qu'il est vrai, et ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs, que l'huile de pépins de courge est bonne pour les problèmes de prostate ?
Ah, voilà, on se découvre. On a des petits problèmes de santé. Non,
je crois de toute façon...
Et on se fait faire une analyse en direct. On pas peut... toucher ici. Hein.
On ne peut pas répondre à ce genre de, questions. Parce qu'une huile, c'est un aliment, donc il y a des tas de composés. Pour savoir si c'est bon ou mauvais, dans le cas d'une pathologie, il faut demander à un toubib qui, lui, n'a jamais été formé à ça par rapport à l'expérimentation en huile.
Tac.
Et les résultats éventuellement disponibles ici ou là, en Australie ou ailleurs, sur 4 petits rats qui se battent en duel, ça ne fait toujours pas une allégation pour dire que dans une population de gens atteints de problèmes de prostate, donc tout ça c'est un peu fantaisie. Ça vient très simplement du fait que tel composé, lui, est connu dans tel ou tel produit, je ne parle plus de la courge là, comme étant important dans l'évolution cellulaire de tel cancer de la prostate, que du coup, derrière, toute personne qui en a vaguement dans un produit commence à dire, tiens, c'est bon pour ceci ou cela, puis après la rumeur, bon, les idées
et reçues. Et puis après, trois mois ou trois ans plus tard, on est sur le billard en train de se faire opérer.
Je vois, nous, la progression de l'huile de courge a été fulgurante. Il y a 20 ans, on en faisait quelques tonnes, et aujourd'hui, nous en faisons des centaines.
Oui, mais ça, c'est un phénomène.
Oui, il y a une demande, vous voyez.
Mais non, mais attendez, le problème entre la demande et la raison de la demande.
D'accord, absolument.
Le phénomène de mode, regardez, l'huile d'olive, en l'espace de 10 ans, le nombre de boutiques qui se sont installées, c'est devenu une industrie.
Ils vendent n'importe quoi.
Ils vendent n'importe quoi, on est à peu près d'accord. Dites-moi, monsieur le grand professeur, j'en viens vers vous. Nos auditeurs, ils veulent faire des mélanges, leurs propres mélanges. Quelles sont les huiles qui s'oxydent ? Qu'est-ce qui ne s'oxyde pas ? Comment est-ce que vous pouvez nous aider là-dedans ? Oui.
Je peux revenir 10 secondes sur la question d'avant. Les mélanges, c'est le droit du cuisinier, du chef, de la personne qui fait son marché. Moi, je n'ai rien contre les mélanges. Tout ce que je peux dire, c'est que quand ça s'appelle margarine, on ne trouve pas ça terrible. Quand il y a de l'ail et de l'échalote, donc c'est presque un plat cuisiné. Donc, le message scientifique, c'est qu'il y a moyen de faire le moins de mélanges possible pour que le message nutritionnel soit simple. Maintenant, le message plaisir et culinaire, c'est tout autre. Et il n'y a pas de mauvais mélange si les produits d'origine sont bons.
Jacques, alors, pardon.
Maintenant, pour revenir sur votre question qui était...
Et donc vous avez répondu, les mélanges, démerdez-vous vous-même, c'est ça, débrouillez-vous, ça ira très bien. Jacques Siret, donc vous êtes le président d'Interprofession des huiles oléagineuses, ça regroupe les producteurs, les négociants, les triturateurs, les industriels. La filière a lancé une campagne avec le slogan « Varier les huiles végétales, c'est vital ». Ah, pas de main morte, hein, quand même. Et alors, ça quoi comme résultat ? Ça a porté ses graines ? Ça a porté ses fruits ?
Oui, ça a porté ses fruits. La preuve, ici, on en parle. Ça veut bien dire que l'on a mis dans les médias...
Rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez lancé cette campagne-là qu'on a fait cette émission.
Tout à fait.
Mais c'est nous qui vous avons sollicité.
Je crois quand même que, et ça a été largement évoqué dans la première partie de l'émission, on a mis en avant le colza, on a mis en avant le tournesol. Imaginez quand même qu'il y a finalement un quart de siècle, nous n'avions avions très peu de consommation de ce type-là. Ce n'était pas ça qui nous servait d'huile. Si nous avons aujourd'hui pu mettre en avant, et je crois qu'il faut le faire savoir aux consommateurs, l'intérêt du colza, l'intérêt de la variation des huiles, parce que je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est tout simplement parce que, au niveau de l'interprofession, entre guillemets, nous mettons en maillon les différents échelons de la filière, à partir d'une demande du consommateur, nous avons réussi à faire évoluer qualitativement nos productions. Il faut savoir qu'entre une graine de colza de 2005 et une graine de colza de 1970, voilà, il y a eu d'énormes efforts de qualité qui ont été faits pour arriver au résultat que l'on connaît. Tout à l'heure, on a parlé du tournesol. Entre le tournesol d'il y a 20 ans et le tournesol d'aujourd'hui, les sélectionneurs nous ont permis de faire évoluer qualitativement l'huile de tournesol. C'est d'ailleurs une huile maintenant que l'on appelle de tournesol oléique, c'est-à-dire plus riche en acide oléique, qui correspond à ce que demande le consommateur, déjà première chose, mais deuxièmement, ce que conseillent les experts en nutrition. Et nous nous appuyons énormément sur les conseils du plan national nutrition santé qui mettent en avant ce type de qualité. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. Il y a dans le côté huile, le côté diététique et puis il y a aussi le côté plaisir. Alors là, on peut le mettre en rajoutant quelques huiles à goût que vous avez citées tout à l'heure.
Rémi Lecoq, vous avez une idée vous, sur l'usage de l'huile, non ?
Non, en fait, j'avais simplement une question. Parce que donc, Monsieur Sirette, vous nous avez expliqué que globalement, 50% des plantations de tournesol sont maintenant en tournesol oléisol, oui, justement. Oui. Donc l'acide oléique, c'est les oméga 9. Et finalement, professeur Legrand, moi, quand j'ai pu feuilleter des dossiers de l'INRA qui donc, classifiaient les huiles si elles étaient équilibrées ou non, l'huile de tournesol oléisol, ce n'était pas du tout une huile équilibrée. C'est juste pour revenir, parce que vous parliez de la volonté du consommateur, des données nutritionnelles. Et finalement,
c'est une étape, si vous voulez. Le tournesol est naturellement une caricature, dans la mesure où il a vers 70-80% d'oméga 6. Donc l'évolution de la profession, comme monsieur l'indique, a été de sélectionner des plants qui diminue l'apport en oméga 6 et rajoute l'apport en oméga 9, c'est-à-dire la neutralité de l'acide oléique. Donc, c'est mieux, oui, mais il n'y a toujours pas d'oméga 3. Donc, c'est pas encore au point.
Oui, votre obsession, vous,
non,
c'est le...
c'est l'équilibre.
C'est l'équilibre, entre le 3 et le 6.
Voilà. Alors là, je peux vous dire que nous sommes complètement d'accord sur cette affaire-là. C'est un problème d'équilibre.
Oh bah,
c'est
pour ça que... Ça serait un comble que vous ne soyez pas d'accord.
Non, mais c'est pour ça que la variation ou la variété des huiles est quelque chose d'important. Et même au niveau plaisir, si vous mangez tous les jours la même chose, vous n'aurez plus de plaisir.
Oui, mais...
c'est un bon sens paysan, je dirais, que nous appliquons
ici. Oui,
non,
mais on est d'accord avec ça. Mais moi, j'ai envie de vous... pas de vous mettre dans l'embarras, mais je voudrais vous poser une autre question. Donc, on précise bien que le décret que j'ai évoqué tout à l'heure, le 11 mars 1908, donc c'est quand même un décret pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et les huiles comestibles, il n'y a rien eu depuis. Donc, vous voyez, ça fait quand même... On est à 100 ans. Personne n'a retravaillé sur ce décret. La dénomination, je vous dis le décret, hein, la dénomination huile végétale pour friture et assaisonnement ne peut pas être utilisée, enfin ne peut être utilisée plutôt que si la teneur en acide alpha-linoléique, oméga 3, ne dépasse pas 2%. Par conséquent, une huile dont la teneur dépasse 2% doit porter la mention huile végétale pour assaisonnement. Mais il se trouve que vous, professeur, l'AFSA, en 2005, l'AFSA, je rappelle que c'est quand même l'Agence française de sécurité alimentaire des aliments, a estimé que cette distinction ne devait plus être considérée comme un facteur de protection sanitaire du consommateur. Voilà, il y a un problème. Toutefois, elle recommande au cas par cas. Donc oui, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour que le consommateur, quelque part, comprenne ce qui se passe dans les huiles et que ça ne soit pas simplement le discours des gens de l'oléagineux, le discours de l'AFSA, le discours médical. Vous recommandez, vous l'AFSA, au cas par cas, une évaluation du comportement des huiles à la chaleur, 6 heures à 180, vous imaginez, la maîtresse de maison qui s'occupe de ça, afin de déterminer l'éventuelle apparition de substances chimiques indésirables. L'AFSA encourage les producteurs. C'est qu'un encouragement. Donc, l'AFSA n'a pas vocation à décréter ou à faire la loi. Et l'encourage les producteurs à mentionner sur l'étiquette si l'huile ne doit pas être chauffée à plus de 180 degrés. Ne pas être utilisée plus de 10 fois et encore ne pas faire fumer l'huile. Moi, je crois que là, ça fait partie des choses, des vraies campagnes. Ça me rappelle un peu l'histoire des gens qui font du surgelé, qui disent le surgelé, c'est formidable, mais qu'oublient d'expliquer qu'il faut conserver la chaîne du froid, sinon ça devient dangereux. Donc, il faut quand même communiquer aux consommateurs l'essentiel, dire les huiles végétales, c'est vital, c'est formidable, c'est bien, et vous avez raison, et je ne suis pas en train de dire quelle connerie. Je suis en train de dire c'est bien. Mais je me demande si tout à coup, vos missions à vous, président d'une interprofession, c'est pas de faire de la formation de consommateurs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, professeur Legrand ?
Là, c'est
je vous attaque pas, hein, monsieur Siré, mais je dis, est-ce que là, tout à coup, on est tous ensemble, ça se passe bien, on parle de l'huile, est-ce que tout à coup, on pourrait pas penser aux utilisateurs, nom de Dieu ?
Non, mais je me sens pas du tout attaqué, et une des parties de cette campagne...
Non, je dis ça parce que comme je suis passionné, demain matin, je viens de savoir, vous avez encore insulté un président d'association, et vous étonnez qu'il vienne pas. Je dis avec passion ce que je pense, c'est
la
tout.
La preuve, hein. Je suis ici, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Que vous reveniez.
Mais je reviendrai éventuellement parler du vin et du quincy si vous le voulez. Mais simplement, au niveau de cette campagne aussi, nous basons beaucoup sur les prescripteurs, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, nutritionnistes, diététiciennes, enfin, etc., peu importe le nom, c'est-à-dire chez les gens qui ont contact avec la population. Parce que c'est pas parce que vous allez faire une plaquette que les gens vont comprendre. Si on veut comprendre, à mon avis, il faut faire passer le message par des gens capables de l'expliquer. Alors, les gens capables de l'expliquer, il y a les médias, vous en faites partie, mais il y a aussi les spécialistes. Et de donner des éléments aux spécialistes qui, eux, sont en général considérés par nos concitoyens comme crédibles, me paraît être un élément assez intéressant sur lequel nous nous appuyons.
Ok. Les oméga-3, on en parle depuis à peu près, quoi, 5 ans, 6
oui,
ans
oui. Vous, oui. Mais les scientifiques, depuis un peu
non,
plus de 70
attendez,
ans.
Bah, Dieu merci, on n'est pas scientifique, parce que si j'étais scientifique, je ne ferais pas d'émission de radio, oui, vous en doutez. Et je ne pourrais pas vous inviter. Donc, voilà. Heureusement qu'on s'intéresse quand même au truc.
Quoi que les scientifiques, on passe à la radio, quelquefois.
Ça peut arriver, oui. J'ai rarement une heure pour parler d'un produit.
Donc, découverte 1930, effet fonctionnel 1965-70 à peu près, et pas du tout à l'origine dans le domaine cardio, mais bien dans le domaine cérébral, avec des troubles de la vision, du comportement chez l'animal carencé, comme un certain nombre de travaux sur les vitamines.
C'est une mode maintenant, tout le monde.
Oui, mais c'est devenu une mode parce que les alicaments se sont lancés, mais cela dit, il y a 23 ans, dans le laboratoire à Jouy-en-Josas, on publiait ça, et ça n'intéressait personne parce que c'était le tout tournesol. Qui faisait la part belle à une famille d'acides gras. Et je dirais, c'est dommage que ces oméga-3 soient dans ce wagon-ci de la mode nutritionnelle, parce que c'est comme si vous découvriez la dernière vitamine ou le dernier acide aminé essentiel. Or, ils vont passer peut-être pas à la trappe, mais en tout cas, souvent, ils sont balayés au même titre que les autres produits.
Il est bientôt 56, je suis un consommateur frustré. J'ai l'impression qu'on a tourné autour du pot sur la question de l'assemblage. Est-ce que, professeur Legrand ou vous autres messieurs, vous pouvez me dire quel est le cocktail idéal pour que j'ai une huile merveilleuse.
Mais il dit 60... non.
Mais si, mais...
Il n'arrête pas de dire que c'est non.
67% colza, 33%
huile d'olive. Mais non, il dit non, il veut pas. Il a raison de pas dire.
Ça doit forcément exister.
Mais ça ne sert à rien, pourquoi ?
Puis ça dépend si c'est à chaud ou à froid.
À froid, pour faire une salade. Et puis ensuite, on va dire à chaud, puis ensuite on le met en friture. Bon, mais je fais une salade. Quel est le mélange idéal que vous pouvez me suggérer ?
Ça dépend la salade.
Mais ça dépend ce que vous mangerez au prochain repas.
Excusez-moi, ça dépend de la salade. Vous ne mettez pas la même huile avec une huile avec de l'endive vous faites une salade de haricots blancs ou de lentilles. Vous mettez un petit trait d'huile de noix tout seul dessus. Ça va évidemment le réchauffer. Et puis si
mais
vous
en absolu.
Mais il n'y a pas d'absolu. Sinon, vous
alors
êtes en train
guide,
de... Mais non, mais vous niez le fondement même de la liberté du consommateur d'utiliser ce qu'il veut par rapport à son produit. propre goût. Il faut sûr. Moi, je viens de dire que j'étais contre les mélanges. Je pense que il faut que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. C'est ce que dit le professeur Legrand. C'est pas. Vous êtes d'accord, Noël?
Je suis d'accord pour les mélanges.
Vous êtes pour les mélanges.
Ouais.
Mais oui, mais
ça fait un équilibre.
Est-ce que chacun peut faire le mélange qu'il veut ou est-ce qu'il faut se faire imposer un mélange par quelqu'un?
Moi, je pense qu'un mélange réfléchi, calculé, c'est idéal à mon idée. Maintenant, chacun mélange comme il entend. Moi, j'estime qu'un mélange intelligemment fait, c'est parfait.
Un mot.
Juste un petit mot. J'allais c'est vous fini. Dire que nous faisons, on mélange, on vend nos huiles que dans des bouteilles fortement teintées.
Oui, ça c'est très bien. Les tourteaux pour les animaux, les tourteaux d'oléagineux, c'est bien ou pas?
Ah bah attendez, dans les champs, qu'est-ce qui pousse? Il pousse une graine. De cette graine, on fait de l'huile. Le résidu, c'est le tourteau. Et un troisième produit que le producteur offre à ses concitoyens, il ne faut pas négliger, c'est qu'il offre des fleurs. Mai avec le colza, juillet avec le tournesol.
Ok, et eh ben voilà, la semaine prochaine. Alors, on parle de quoi la semaine prochaine? Ah oui. Il y a eu des démarches qualité, vous avez entendu parler de ça. Tout le monde veut avoir une démarche qualité pour essayer de faire mieux. Alors, on est retourné en Normandie pour voir comment les producteurs de homards, de bulots, de prairies, comment est-ce qu'ils faisaient pour mettre en œuvre cette démarche qualité. Il y a de la pub, paraît-il. Et eh ben alors, allez-y.